Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, pourquoi appelons-nous à un retour de l'autorité de l'État? La souveraineté nationale nous rend-elle plus libres, plus autonomes? Une illusion trop répandue, à droite comme à gauche, une croyance contredite par nos invités. Le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval, le premier est chercheur, le second professeur émérite, tous deux à l'université Paris-Ouest-Nanterre, La Défense. Ensemble, assurément, ils publient à la découverte « Dominer », une grande enquête sur la souveraineté de l'État. 5 ans après un ouvrage sur les communs, qui a fait bruit, date, reconnue dans le monde des sciences humaines, les communs, cette révolution du 21e siècle. Bonjour Christian Laval.
Bonjour.
Et bonjour Pierre Dardot.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. Et soudain, face à la pandémie, les appels à retrouver notre souveraineté ont fleuri.
Le jour d'après ne ressemblera pas au jour d'avant. Nous devons rebâtir notre souveraineté nationale et européenne. Nous avons commencé avant crise, et vous m'avez souvent entendu vous en parler. Nous avons passé des réformes qui permettent à notre pays d'être plus compétitif. Mais il nous faut retrouver la force morale et la volonté pour produire davantage en France et retrouver cette indépendance. C'est ce que nous commençons de faire avec force, courage, sur les produits de première nécessité pour cette crise. C'est ce que nous continuerons à faire le jour d'après. Souveraineté. Souveraineté et solidarité.
Emmanuel Macron appelant à rebâtir notre souveraineté, on est beaucoup à y avoir cru quand il a prononcé ces mots. Rebâtir notre souveraineté, il y avait comme un élan, quelque chose qui semblait indiquer un cap, un avenir. Il y avait comme une urgence à le croire. Aujourd'hui, vous nous dites, Pierre Dardot, Christian Laval, qu'on est un peu naïf ou qu'en tout cas, il y a là-dedans une fausse promesse et qu'il ne faut pas se nourrir d'illusions. Pourquoi, Christian Laval ?
Écoutez, d'abord, dans le propos d'Emmanuel Macron, il y a une confusion assez répandue entre l'indépendance, l'autonomie industrielle et la souveraineté de l'État. Je crois que aujourd'hui, s'il y a une illusion, c'est de croire que tout ça veut dire la même chose. Nous, ce que nous essayons de faire dans l'ouvrage, c'est précisément de rappeler ce qu'a été le passé dans lequel nous vivons encore, qui est finalement la forme de l'État, la forme de l'État souverain. Et donc, pour nous, ce qui nous importe, c'est le phénomène, comme le titre l'indique, de la domination. Ce que masque finalement le propos de Macron, qui assimile solidarité et souveraineté, c'est finalement que nous avons eu affaire, et nous avons encore affaire, à une forme de domination, qui est celle de l'État, d'une puissance publique qui se veut absolue et perpétuelle. Et je crois que ce qui est peut-être le plus significatif dans le propos qu'on vient d'entendre, c'est la réaffirmation précisément de cette domination, avec cette dimension même de guerre. Macron se positionnant comme un chef de guerre. On a vu effectivement à quel point c'était illusoire, parce que dans cette forme-là, il y a aussi l'illusion d'une maîtrise absolue des processus, et on a vu quel échec a été finalement la gestion gouvernementale de la pandémie.
Oui, il y a eu ce sentiment de nation, et pas que la France, désarmée face à la crise sanitaire, d'où cette déclaration de guerre au virus répétée par le président de la République pour mobiliser les moyens de l'État, pour lancer les vastes commandes de masques, d'appareils. Vous dites aujourd'hui la pandémie n'a pas fait, ou en tout cas c'est pas souhaitable, revenir les États souverains sur le devant de la scène. Elle a juste et surtout révélé leur pouvoir, ou plutôt leur absence de pouvoir, et tant mieux.
Oui, alors elle a été un révélateur de l'impuissance des États. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe dans la situation que nous avons connue et que nous connaissons encore très largement aujourd'hui. C'est que les États ne se sont jamais autant réclamés justement de leur souveraineté qu'aujourd'hui, en pleine situation de pandémie, alors même que dans la conduite de cette crise, ils ont d'abord et avant tout manifesté leur profonde impuissance. Alors c'est quelque chose d'assez troublant, mais ça vaut la peine d'être relevé. Et puis il y a quelque chose d'autre qui transparaît dans le propos d'Emmanuel Macron qui a été cité tout à l'heure, c'est la continuité. Alors ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de ce que vient de dire Christian, c'est-à-dire la continuité entre le jour d'après et finalement le jour d'avant. Puisque nous avons commencé, il faut écouter les paroles, nous avons commencé de rebâtir cette souveraineté et nous allons continuer dans la même voie. Et l'exemple qu'il prend, ou plutôt ça n'est pas un exemple, c'est la notion de compétitivité, pour mettre l'accent justement sur la nécessité de la compétitivité. Alors la souveraineté, donc derrière les grands mots d'indépendance, d'autonomie stratégique, etc., signifie pour lui, pour l'essentiel, garantir la compétitivité de l'entreprise France.
Voilà, il faut juste qu'on établisse clairement une parole pour éviter toute confusion, vous le dites, cette crise a révélé l'impuissance de l'État, mais votre livre n'est pas un appel au retour de la puissance des États, loin de là. Il y a eu quand même pendant cette période et dans d'autres périodes de notre histoire une vraie demande de protection. Et cette protection aujourd'hui, qui mieux que l'État pour l'apporter, Christian Laval?
Oui, alors justement, ce que nous expliquons dans notre livre, c'est qu'il y a une demande d'État. Elle est incontestable, c'est-à-dire qu'au fond, nous, citoyens, nous sommes tous étatisés, comme le disait Thomas Bernhard, l'écrivain autrichien, qui a été d'ailleurs cité par Bourdieu. Nous sommes étatisés, donc finalement nous sommes pris dans un engrenage de croyances, de foi et d'attentes collectives dans l'État. Mais qu'est-ce que nous attendons exactement de l'État? Et c'est là où nous essayons de clarifier un petit peu les choses. Nous n'attendons pas forcément cette domination absolue, voire ces abus, ces arbitraires. Nous attendons sans doute effectivement de la solidarité. Et l'État s'est prétendu, s'est posé comme un organisateur de la solidarité. À la fin du siècle dernier, au début du XXe siècle, il y a toute une série de gens, de juristes en particulier, qui ont essayé de redéfinir l'État hors du schéma de la souveraineté, c'est-à-dire hors du schéma de la domination, en pensant que l'État devait être plutôt un État des services publics. Et là, on est dans un tout autre configuration. Un État des services publics, c'est un État qui a des obligations envers les citoyens pour fournir un certain nombre de biens ou de services qui permettent la satisfaction des besoins de cette population. Alors, on l'a vu, là, puisque vous avez commencé sur la pandémie, on a vu finalement cette dualité jouer. Il y a eu une attente, effectivement, de solidarité. On a applaudi
les personnels soignants. On a mobilisé les services publics.
Voilà, on a beaucoup attendu des personnels soignants.
Évidemment, l'hôpital, l'éducation.
Absolument. Et au fond, ça a permis ce retour du service public, si je puis dire. Et en même temps, on a vu que des représentants de l'État en profitaient pour réaffirmer, au fond, la force, la contrainte, la coercition. Au fond, une gestion plutôt punitive et policière de la pandémie. Et on a vu cette contradiction, plutôt cette tension qui existait au sein de l'État. D'une certaine façon, l'État aujourd'hui n'est pas unifié. Il y a un pôle incontestablement qui est celui des services publics, et puis il y a celui, effectivement, de la figure souveraine, ce qu'on appelle précisément les attributs régaliens de l'État.
C'est un autre exemple, mais qui montre aussi cette attente qu'on peut avoir. Pierre Dardot, il savait, il ne savait pas, le président américain, c'est l'actualité de ce matin. Donald Trump et la gravité de l'épidémie, avec ces enregistrements qui ont été révélés cette nuit et réalisés par le journaliste Bob Woodward, avec le président américain qui sème plus que le doute sur ce que l'État et son plus haut représentant savaient ou ne savaient pas, et ce qu'il est, non pas en droit, mais en devoir de faire pour protéger sa population.
Oui, alors là, on voit qu'il se dérobe complètement à ses responsabilités dans la mesure où il joue un petit peu sur les nerfs des Américains en disant à un moment que ça n'est pas si grave que ça, et puis à un autre moment qu'il faut quand même se protéger, porter des masques. Il apparaît tout à coup avec un masque alors qu'il avait refusé d'en porter jusqu'à présent. Enfin, ce sont des volte-face dans son comportement qui sont plutôt inquiétantes et qui témoignent justement d'une difficulté, parce que on a souvent parlé à la suite de Foucault de la biopolitique, c'est-à-dire de la gestion de la vie des populations dans l'âge qui était le nôtre, celui justement de la gouvernementalité, celui de la biopolitique au sens le plus large du terme. Mais on a eu au début, en tout cas de la pandémie, des attitudes qui témoignaient d'une logique qui n'était pas tout à fait celle de la protection de la vie des populations. C'était même plutôt l'inverse. Il y a beaucoup de gouvernants. Alors Trump et Johnson en font partie, Bolsonaro n'en parlons même pas. Il y en a eu d'autres comme cela qui ont misé dans un premier temps sur justement une sorte de neutralisation du virus par l'immunité collective, en se résignant assez tard pour certains. Trump, pas encore véritablement, mais pour certains, en tout cas, en se résignant assez tard à prendre les mesures qui s'imposaient. Donc c'est plutôt, là on est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler avec Achille Mbembe la thanatopolitique, c'est-à-dire une façon non pas de une façon de laisser mourir d'un certain point de vue, pas de faire mourir bien entendu, mais de laisser mourir en considérant que finalement, au bout du compte, l'immunité collective garantira que la population s'en sortira. Puis il y a eu cette volte-face et Trump lui continue.
Foucault, il est largement convoqué, voire mobilisé dans votre livre Dominé, Christian Laval, Pierre Dardot, qui paraît à la découverte. On va l'écouter parce que c'est quand même pas si facile de concevoir comment on peut transposer peut-être ce concept de biopolitique aujourd'hui.
Moins que le pouvoir au XIXe siècle a pris la vie en charge, c'est dire qu'il est arrivé à couvrir toute la surface qui s'étend de l'organique au biologique, du corps à la population, par le double jeu des technologies de discipline d'une part et des technologies de régulation de l'autre. Nous sommes donc dans un pouvoir qui a pris en charge et le corps et la vie, ou qui a pris, si vous voulez, disons, la vie en général en charge, avec le pôle du côté du corps et le pôle du côté de la population. Biopouvoir, par conséquent, biopouvoir dont on peut repérer aussitôt les paradoxes qui apparaissent à la limite même de son exercice, paradoxe qui apparaît d'un côté, si vous voulez, avec le pouvoir atomique qui n'est pas simplement le pouvoir de tuer. Dans ce pouvoir atomique, le pouvoir qui s'exerce de telle façon qu'il est capable de supprimer la vie et de se supprimer par conséquent comme pouvoir d'assurer la vie. Et à l'autre limite, vous avez alors l'excès au contraire, non plus du droit souverain sur le biopouvoir, mais excès du biopouvoir sur le droit souverain. Cet excès du biopouvoir, il apparaît lorsque, et techniquement et politiquement, donner à l'homme la possibilité non seulement d'aménager la vie, mais de faire proliférer la vie, de fabriquer à la limite du virus incontrôlable et universellement destructeur. Extension formidable du biopouvoir qui, à l'opposition de ce que je vous disais tout à l'heure pour le pouvoir atomique, va déborder toute la souveraineté humaine. Bon.
Voilà, bon, c'est Foucault qui est au Collège de France et qui termine sa démonstration par un bon, on est le 17 mars 1976. Alors bon, quoi? Ce biopouvoir, il a pris en charge, on le comprend, tel que l'explique très bien Foucault, nos vies biologiques. L'État devient garant de nos vies, de la naissance à la mort. Est-ce qu'on peut aussi s'interroger sur nos vies sociales, c'est-à-dire dans ce temps-là, est-ce que l'État est aussi en charge de nous faire vivre ensemble, en société?
Oui, écoutez, c'est bien que vous ayez passé cet extrait de Foucault, parce que notre livre, c'est aussi, entre autres choses, une explication avec Foucault, qui nous a beaucoup intéressés. Nous sommes on peut dire des grands et vieux lecteurs de Foucault. Mais au moins sur un plan, nous nous distinguons maintenant d'un certain foucaldisme, je dirais orthodoxe, qui voudrait que Foucault ait tout dit. Il nous a beaucoup apporté, en particulier sur les formes de pouvoir qu'il vient de mentionner, la biopolitique, le pastorat chrétien, la gouvernementalité néolibérale. Le travail de Foucault est absolument indispensable. Mais il y avait chez lui une sorte de parti pris qui était de laisser de côté la souveraineté. Il fallait couper la tête du roi. C'est-à-dire qu'au fond, il fallait, pour développer les analyses qu'il a faites sur les formes de pouvoir, laisser tomber la philosophie politique traditionnelle qui, pour lui, bloquait au fond l'analyse de la situation présente. D'un certain côté, nous faisons un pas de côté, pas un pas en arrière, nous l'espérons, mais un pas de côté, c'est-à-dire que nous expliquons que justement, ces formes de pouvoir nouvelles se sont appuyées sur la souveraineté. Elles sont inscrites dans le cadre de la souveraineté. Elles sont impensables sans la souveraineté. Jusqu'au néolibéralisme. Le néolibéralisme est impensable si l'on ne prend pas en compte, par exemple, la présence, la force de l'État. Les néolibéraux ne se cachent absolument pas sur la nécessité d'un État fort pour créer les conditions, justement, d'une nouvelle forme de gouvernementalité. Donc, il est absolument certain que Foucault est indispensable, mais très insuffisant. Vous avez parlé tout à l'heure de biopolitique, oui, mais on pourrait dire aussi que l'État n'a jamais cessé d'autoriser à tuer et d'appeler à mourir. Mourir pour la patrie, c'est aussi un peu ce que fait Trump dans ses attitudes que vous avez et dans ses propos que vous avez cités.
Pierre Dardot.
Oui, il y a quelque chose dans la problématisation de la souveraineté par Foucault qui est justement assez discutable, surtout à la lumière de ce qui s'est passé et de ce qui se passe encore de la pandémie. C'est la façon relativement rapide dont il relègue la souveraineté dans un passé dépasser, c'est-à-dire en considérant que ça vaut d'abord et avant tout pour les formes médiévales de la souveraineté, pour la monarchie absolue de l'époque classique, mais que finalement avec la biopolitique on a dépassé ça et on est passé à autre chose. En réalité, il y a une intrication, comme il le reconnaît lui-même d'ailleurs dans certains passages, entre la biopolitique et puis des formes de souveraineté qui ne sont pas des formes résiduelles, mais des formes transformées. Il y a quelque chose de très important à saisir, c'est justement cette histoire de la transformation des formes de la souveraineté. Donc nous n'en avons pas fini, lorsque nous passons à la biopolitique, comme dit Foucault, avec les formes de la souveraineté. Au contraire, il y a un renouvellement qui est assez extraordinaire des formes de la souveraineté, et on le voit aujourd'hui. Donc on ne peut pas simplement dire, la souveraineté, c'est, comme dirait Hobbes, la double épée, l'épée de justice et l'épée de guerre. Mmh. C'est-à-dire le droit de faire mourir la guerre, et puis le droit de faire mourir le criminel.
Comme vous avez commencé à parler de couper la tête au roi sur cette histoire de la souveraineté que vous racontez, que vous avez travaillé à travers cette longue enquête publiée dans ce livre Dominé, quel est l'héritage exactement de cette souveraineté qu'on connaît telle qu'on la connaît aujourd'hui, à la fois la révolution papale jusqu'aux monarchies absolues, parce que vous remontez jusque-là hein, pour expliquer comment notre souveraineté, celle des États modernes, s'est construite. Pierre Dardot, Christian Laval.
Oui, enfin,
Christian Laval.
Vous avez raison de dire que c'est une longue enquête, c'est-à-dire que nous ne lésinons pas sur les démarches que nous avons faites, les analyses que nous avons faites, je dirais même avant le Moyen-Âge, puisque nous interrogeons évidemment la question de savoir si on peut parler de souveraineté en Grèce ou à Rome. Pour nous, il y a effectivement un certain nombre de tournants qui font l'État moderne, l'État comme création historique, l'État comme construction, parce qu'il ne faut pas oublier que l'air que nous respirons, c'est un air étatique, si je puis dire. Nous respirons de l'État. Mais cet État a une histoire et notre démarche, c'est une démarche d'analyse historique. Notre méthode, c'est une historicisation de l'État parce que c'est la condition indispensable justement pour se déprendre de ces illusions naturalistes, si je puis dire, dans lesquelles nous sommes. Donc il s'agit pour nous d'examiner toute une série de tournants dans l'histoire.
J'aime bien quand vous dites nous respirons État, parce que vous montrez bien aussi comment nous pensons État, comment le monde est fait d'État, mais surtout comment nous sommes faits d'État, hein, qu'on a ses droits et ses devoirs, ses libertés qu'on a pu intégrer, comment nous dépendons de lui et surtout comment il a façonné l'État, notre imaginaire. Quelles sont les premières formes d'État, de souveraineté du coup, Pierre Dardot.
Les premières formes de souveraineté, nous mettons en évidence la portée de la révolution papale, de ce que Harold Berman, un historien américain du droit, appelle la révolution papale, parce que Grégoire VII, c'est un moment absolument clé dans cette formation des États. Alors les États séculiers, au sens moderne du terme, évidemment, n'existent pas encore. Mais en revanche, il y a des monarchies qui sont plus ou moins fortes, plus ou moins consolidées, et qui prennent pour modèle la construction de l'État-Église sous Grégoire VII, c'est-à-dire qu'il considère qu'en effet, ce que le pape se permet, il n'y a pas de raison qu'eux ne se permettent pas à la tête de leur État. Ce n'est pas encore l'État souverain comme tel. Ce sont des souverains qui sont à la tête d'État et qui prennent le souverain pontife pour modèle. Voilà, en disant, il n'y a pas de raison pour que nous ne construisons pas quelque chose d'analogue, avec des pouvoirs extrêmement forts de faire la loi, de défaire la loi, c'est-à-dire de nous situer au-dessus de la loi. C'est ça la définition, la véritable définition de la souveraineté, c'est ça, hein, c'est l'égibus solutus, c'est-à-dire justement délivré ou affranchi de la loi. C'est ce rapport-là à la loi qui est absolument déterminant. Alors bien sûr, ça c'est la première forme. Ensuite, nous avons eu le souci de faire apparaître des tournants, des bifurcations, c'est-à-dire de ne pas donner l'idée qu'il y a une sorte de marche irrésistible vers l'État souverain. Il y a des moments où les choses sont indécidées encore. Par exemple, lorsque nous parlons du tournant de 1300 au début du XIVe siècle, il y a quelque chose qui se produit, qui est très important, alors qu'il y avait des cités, par exemple dans le nord de l'Italie, qui avait une certaine autonomie. Bon, tout ça ne relève pas donc d'un destin implacable qui aurait été contenu déjà en germe dans les réformes de Grégoire VII. C'est plus compliqué que ça. Mais nous avons hérité de tout ça, pour le pire souvent. Et ce qui importe, c'est de mettre en évidence la permanence et la continuité de cette souveraineté de l'État à partir du moment où le processus de construction se trouve engagé. Et nous en avons hérité, y compris lorsque nous...
Ça, vous pouvez donner un exemple de cette permanence?
Oui, un exemple de cette permanence. Je prends une formule de Peggy qui est assez forte. Peggy qui s'y connaissait plutôt en matière de mystique que de politique, comme il le dit lui-même. Mais la formule de Peggy qui est remarquable, c'est « La République une et indivisible, virgule, notre royaume de France ». Bon, alors je sais que Emmanuel Macron aime beaucoup citer Péguy en ce moment, pour des raisons sans doute des calculs politiques ou électoraux, mais il y a quelque chose de très fort dans la formule de Péguy qui donne à voir, qui manifeste la continuité assez remarquable entre les vieilles formes de la monarchie et d'autre part la République telle qu'elle se construit à partir de la Révolution française.
Ou peut-être parce qu'Emmanuel Macron assume aussi cet héritage, cette continuité et ça se retrouve dans sa conception de la verticalité du pouvoir.
Tout à fait. République une et indivisible, ça c'est sûr, ça s'accommode parfaitement avec le culte de la verticalité.
Mais alors, entre-temps, il y a la mondialisation ou la globalisation qui est passée par là, et qui est l'état maximal dans lequel nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous n'iriez pas jusqu'à dire que la globalisation a tué la souveraineté? C'est quand même ce qu'on entend généralement. Les États n'ont plus de pouvoir, à part celui, et encore, plus en Europe, de battre monnaie, de contrôler leurs armées et de mener la guerre. Les États n'ont pas été totalement dépossédés de leur souveraineté avec la mondialisation. Christian Laval ?
Ce que nous voyons, c'est plutôt l'inverse. En tout cas, cette idée selon laquelle la globalisation aurait précisément tout englobé, y compris les États qui auraient plus ou moins été annulé par les flux financiers, les échanges économiques, etc. On voit bien que ceci n'est pas la réalité. L'époque que nous vivons, c'est l'époque de la réaffirmation des États, avec toute leur part de violence, avec la dimension de rivalité entre eux, au point que la situation est devenue extrêmement dangereuse, du fait même de ces affrontements d'États. Nous pensons que l'organisation du monde, c'est une organisation qui se joue sur deux niveaux, si je puis dire, mais entremêlés, articulés. Il y a d'un côté, effectivement, ces réseaux financiers, ces échanges économiques, ce maillage économique qu'on appelle la globalisation, et puis d'un autre côté, il y a l'organisation interétatique. Quel est le lien entre les deux? Eh bien, depuis le début du capitalisme, les États ont joué un rôle majeur dans le développement, justement, de ces grandes puissances privées, de ces grandes entreprises qui ont structuré le capitalisme mondial. Et c'est encore le cas aujourd'hui.
C'est encore les États qui tirent les ficelles, qui restent des acteurs majeurs du capitalisme mondial.
Qui construisent, qui appuient leurs champions nationaux. Qu'est-ce que c'est qu'un champion national? C'est sinon une grande entreprise nationale, ou en tout cas à dominante nationale, qui est appuyée par l'État. Il y a quand même une chose à rappeler, c'est que la globalisation elle-même est le fait des États. Elle est le produit de quoi? De traités, d'influences, d'entreprises même de colonisation ou de néocolonisation. Et donc les États n'ont jamais été indifférents à l'expansion du capitalisme. Il suffit de regarder ce qui se passe en Amérique latine. L'histoire de l'Amérique latine est une histoire des interventions étatiques puissantes, extérieures, mais aussi intérieures, pour mettre en place, justement, ce capitalisme-là.
Et en Europe, dans l'Union européenne, vous diriez que cette souveraineté européenne est aussi un leurre?
Alors, la souveraineté européenne, il y a beaucoup de gens qui en parlent, dont Emmanuel Macron. Et toute la question est de savoir ce qu'ils entendent par là. Parce que il faut pas non plus se laisser duper par des étiquettes ou des mots. Donc, il y a parfois, effectivement, des choses qui relèvent de l'indépendance industrielle. Par exemple, quand on pense à la production des principes actifs, à la relocalisation des principes actifs de fabrication des médicaments. Bon, la question de la souveraineté européenne mérite d'être posée à partir de l'expérience de ce qui s'est passé dans la construction européenne dans les moments tout récents. Je veux parler de la Grèce, par exemple, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui, à la tête de l'Union européenne, ont parlé justement de la nécessité de faire prévaloir un nouveau concept de souveraineté. Et le nouveau concept de souveraineté dont ils parlaient, à l'échelle de l'Europe, justement, c'était un concept de souveraineté qui impliquait la supériorité des règles du droit privé. La supériorité des règles du droit privé. Donc il fallait faire entendre raison aux Grecs, précisément pour cela, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il y avait, avec l'Union européenne, un nouveau concept de souveraineté qui avait émergé. Alors, si c'est ça, la souveraineté, c'est parfaitement complémentaire, c'est pas du tout quelque chose qui est contradictoire avec la souveraineté de l'État-nation. La souveraineté européenne ainsi définie a parfaitement besoin du jeu de l'État-nation ou des États-nations. Il y a une concurrence entre les États-nations, y compris à l'intérieur même de l'Union européenne. On l'a vu fort malheureusement dans les conditions tragiques de la pandémie, parce que au lieu d'avoir une coopération ou une entente, il y a eu une concurrence acharnée avec des choses qu'on aurait à peine pu imaginer, au lieu que tout le monde fasse, comment dirais-je, en sorte que la coopération l'emporte sur la logique de la concurrence.
Ça, on l'a vu notamment autour de la question des vaccins.
Alors, on l'a vu.
Le Covid, parce qu'on a vu des chercheurs de chaque pays qui n'ont pas su unir leurs forces, qui n'ont pas voulu s'entendre. Dans un cas comme celui-là, d'ailleurs, vous reposez la question des communs, hein, qui est celle de votre précédente grande enquête. C'est ce qui s'est passé là, c'était des égoïsmes, des souverainetés qui s'entrechoquaient.
Oui, je pense qu'il y a eu manifestement des égoïsmes nationaux. Je pense en particulier, il y a une chose dont on a relativement peu parlé, il y a eu une sorte de discrétion là-dessus, on en a parlé quand Emmanuel Macron l'a révélé, mais pendant un mois, il y a eu un décret pris par le président de la République qui interdisait une multinationale fabriquant des masques sur le territoire français de pouvoir justement les vendre et les diffuser. Et c'était quelque chose qui intervenait au moment où l'Espagne et l'Italie, plus encore que la France, avaient à souffrir terriblement de la situation de la pandémie. On aurait pu attendre tout à fait autre chose, surtout de la part de quelqu'un qui ne cesse de revendiquer la souveraineté européenne. Donc il y a quand même un vrai problème. Et alors le vaccin, c'est terrifiant. Le vaccin, c'est terrifiant. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu imaginer que Trump, c'était un cas isolé. Bon, lui, il a tout de suite annoncé la couleur en disant qu'il fallait bien sûr parvenir à un accord qui privilégierait les États-Unis, parce que les États-Unis avaient financé Sanofi. Mais après, malheureusement, on n'a pas eu tellement de sons de cloche très très différents, puisque on a eu des tentatives de la part de l'OMS, certes maladroites, parce que c'est pas une organisation, c'est une lourde administration, mais de mettre sur pied des structures associant des instituts de recherche publics et d'autre part des laboratoires. Bon, force est de constater que pour l'instant, c'est la course entre les États qui prévaut. Voilà, c'est celui qui va arracher le vaccin le plus tôt.
13h22 avec le philosophe Pierre Dardot qu'on entendait à l'instant et le sociologue Christian Laval, nos invités à l'occasion de la parution à la découverte de leur ouvrage, une grande enquête sur la souveraineté de l'État intitulée « Dominer ». Vous êtes très critique hein, envers la résurgence de l'idée de souveraineté. Vous en parlez même comme d'une idéologie, un dogme hein, de cette souveraineté qui désigne une forme selon vous spécifique de domination, celle de l'État moderne. Et qui plus est, cette forme-là ne répondrait plus aux aspirations des citoyens. Alors est-ce que la souveraineté n'est pas antidémocratique ? On écoute un sociologue que vous connaissez bien, c'est Edgar Morin, à l'occasion de Nuit Debout.
Moi, je suis très frappé par la signification de ce qui se passe. Et dans le fond, cette place de la République, ça ressuscite ce qui existait dans les anciennes cités, comme Athènes ou comme Rome. Il y avait le forum, il y avait l'agora et la place publique. Et ce qu'il y a, c'est que ça avait totalement disparu ici. Ça n'existait plus, on ne se parlait plus. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est un lieu où les citoyens, quels qu'ils soient, retrouvent la parole. Et on voit ce besoin de parole depuis que ça a commencé. Le besoin de s'exprimer, le besoin de questionner, de s'interroger. Donc, si vous voulez, je trouve que c'est un phénomène tout à fait positif, de réveil, qui coïncide d'ailleurs avec d'autres mouvements de réveil qui sont très dispersés, on sent très bien que partout, c'est les mêmes aspirations et les mêmes révoltes qui s'expriment différemment.
Si l'État est une mauvaise fiction, Christian Laval, s'il n'y a plus d'État, il y a quoi ? Comment est-ce qu'on fait société ?
Bien, écoutez, d'abord, j'étais content d'entendre Nuit Debout et ce qui s'est passé, parce que c'est assez exemplaire. Effectivement, Edgar Morin a raison de dire qu'il y a une aspiration très très répandue, globale même. On pourrait presque parler d'une révolte globale, à la fois contre le néolibéralisme, mais aussi contre les États néolibéraux. Et aujourd'hui, on voit un peu partout se développer d'autres formes de faire société, si je puis dire, c'est-à-dire une recherche, par tâtonnement évidemment, rien n'est décidé encore, les formes ne sont pas abouties, mais il y a beaucoup de tâtonnement, d'expérimentation qui vont dans un sens. Ce sens, c'est celui d'une démocratie réelle dans laquelle les citoyens refusent de déléguer, de remettre au fond leurs décisions, leurs pouvoir de délibération à des représentants qui incarneraient, qui prétendent incarner finalement le bien général. Parce que finalement, ce qui s'est produit dans les deux derniers siècles dits démocratiques, c'est une sorte d'édulcoration de la démocratie réelle. Ça a été finalement l'idée selon laquelle la nation, le peuple, avec évidemment des majuscules, avait une souveraineté, mais à travers, par la médiation de représentants. Une fois élus, ces représentants, ils avaient la carte blanche pour faire un peu ce qu'ils voulaient. Ils avaient le monopole, au fond, de la loi, le monopole, finalement, de la direction et du commandement de la société. Tout ça est fini. Tout ça s'était épuisé aujourd'hui. Et ça, il faut bien se rendre compte que la période dans laquelle nous sommes entrés est toute différente. Nous sommes dans une période où il nous semble qu'il y a des processus que nous appelons le commun, processus de commun, qui sont des processus de démocratie et qui sont aussi des processus qui visent à rendre beaucoup plus accessibles justement des biens essentiels pour la population et pour la vie.
Et ce qu'on comprend, c'est qu'on peut repenser ces formes d'organisation, d'échange, ces manières de faire société, à la fois à l'échelle d'une place, ce qu'on a pu voir au moment de Nuit Debout, ou à l'échelle d'un rond-point avec les Gilets jaunes. Mais il faut aussi peut-être imaginer que cette organisation politique, elle est à vouloir dépasser celle de la souveraineté de l'État-nation, et qu'elle n'est plus en mesure de faire face aux défis que le siècle nous lance aujourd'hui, à commencer par celui du réchauffement climatique. Là, donc, c'est quelque chose d'extra-étatique qu'il faudrait imaginer. Comment faire, quelle souveraineté ou non-souveraineté, mais forme d'organisation politique peut naître de cela?
Alors, certainement pas la reconduction de forme de la souveraineté à une échelle différente, parce que ça, je pense que ce serait une impasse. La souveraineté de l'État-nation représente, de notre point de vue, un obstacle, justement, à l'affrontement des questions qui sont posées à l'humanité aujourd'hui, notamment en relation avec la question climatique. Et donc, je crois qu'il faut plutôt penser à quelque chose qui procéderait à la fois un débordement par en haut et par en bas de l'État-nation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, par principe, contre l'existence de l'État, mais nous sommes anti-étatistes. Nous considérons que l'État n'est pas le centre de la société. Et nous considérons, par conséquent, que les communs, les expériences de communs, aussi locales soient-elles, ont quelque chose de très important à dire sur la façon dont la société doit être réorganisée. Mais en même temps, les communs locaux ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il faut à la fois l'échelon local, et en même temps, il faut être capable de dépasser l'organisation étatique nationale par en haut. C'est-à-dire par des alliances qui sont des alliances transnationales. Alors c'est très important. C'est pas l'internationalisme classique au sens d'une relation entre des nations déjà constituées, des États-nations déjà constitués. C'est quelque chose d'assez différent et qui s'expérimente aussi aujourd'hui dans certains mouvements. Je pense à la force, par exemple, du mouvement féministe dans différents pays, en Amérique latine, en Europe, etc. Je pense à d'autres mouvements qui vont jusqu'à envisager immédiatement, pas dans un second temps, des échanges, des fédérations, voilà, des fédérations d'expériences et de pratiques, qui sont peut-être la meilleure voie que l'on puisse emprunter aujourd'hui pour dessiner un avenir qui soit justement au-dessus ou indépendant, en tout cas, de l'organisation étatique, nationale étatique, telle qu'elle a prévalu jusqu'à présent.
Voilà, et pour comprendre ça, vous montrez toutes les impasses du système actuel, de ce régime d'irresponsabilité que certains États, notamment, ont organisé. On le voit, l'exemple beaucoup discuté aujourd'hui du Brésil avec Jair Bolsonaro et l'Amazonie, où on pourrait parler aussi de l'Équateur, les incendies, déforestation, ces pollutions pétrolières et ces États qui ne sont jamais responsables et qui s'estiment chez eux donc capables d'assumer et de faire ce qu'ils veulent dans leurs frontières. Merci beaucoup à vous pour cette analyse passionnante, Pierre Dardot, Christian Laval. Je rappelle le titre de ce nouvel ouvrage qui sera suivi, paraît-il, d'un second volet qui serait en préparation avec des nouvelles pistes encore à explorer. Vous nous en direz plus la prochaine fois. Dominer, enquête donc sur la souveraineté de l'État, votre livre a paru à la Découverte. Merci.
Merci. Merci.
Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table. La Grande Table des idées, c'est Jean Bulot, avec l'aide précieuse de Laura Dutèche-Pérez. La Grande Table culture, c'est Oriane Delacroix, avec Anouk Delfino et Madeleine Martineux. Coordination, Henri Leblanc. À la réalisation aujourd'hui, Thomas Beau, avec Jacques Hubert. Très bel après-midi à tous sur France Culture.